Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, cette fête que l'Église nous invite à célébrer aujourd'hui tient l'une des plus grandes places dans l'année liturgique. Elle est même si importante que Notre-Dame, en nous donnant son Saint-Rosaire, nous demande de le méditer encore et encore tout au long de notre vie, une fois, plusieurs fois par semaine. Parce que ce dogme est si profond que jamais nous ne pourrons l'épuiser totalement par notre contemplation. Il y aura toujours de nouvelles considérations à faire, de nouvelles grâces à en retirer. Et tout d'abord, il est bien important de comprendre le sens de cette ascension de notre Seigneur, de son entrée au ciel, puisqu'il ne faut pas confondre le triomphe de Jésus-Christ avec celui de ses saints. Lorsqu'on dit qu'un saint est entré au ciel, cela veut dire qu'il a commencé à jouir de la vision béatifique, cette vision de Dieu face à face qui fait le bonheur de l'éternité au ciel. Pour notre Seigneur, il n'en est évidemment pas ainsi, puisque c'est dès sa conception, dans le sein virginal de Notre-Dame, que Jésus-Christ, comme homme, a vu son Père, a vu Dieu, face à face. Donc il a joui de la vision béatifique dès le début, et cela a continué tout au long de sa vie, et même sur la croix. Donc, en fêtant l'Ascension, ce n'est pas cela que nous fêtons. Ce que nous célébrons dans le mystère de l'Ascension, c'est le triomphe de son humanité, qui, comme l'enseigne le catéchisme du Concile de Trente, termine et couronne sa vie terrestre. Je vous cite ce que dit le Concile. Les autres mystères de Jésus-Christ se rapportent à l'Ascension comme à leur fin, et ils y trouvent leur perfection et leur complet achèvement. De même, en effet, que tous les mystères de notre religion commencent à l'incarnation, de même aussi, le séjour du Sauveur parmi nous se termine à son ascension. Et ce triomphe de l'ascension consiste en une double manifestation. D'abord, manifestation de sa sainteté, et puis, manifestation de sa royauté. Et d'abord, notre Seigneur apparaît aux yeux de tous aujourd'hui, revêtu d'une incomparable sainteté. Au cours de sa vie terrestre, la sainteté de notre Seigneur apparaissait bien sûr aux yeux des hommes, mais surtout des hommes de bonne volonté. Et cependant, cette sainteté intérieure de notre Seigneur ne rayonnait pas à l'extérieur avec toute la gloire qu'il méritait, comme cela est arrivé sur le mont Tabor, par exemple. Et c'est pourquoi les habitants de Nazareth l'ont pris pour un homme ordinaire. Il avait vu grandir parmi eux, et lorsque notre Seigneur a commencé sa vie publique, a commencé à prêcher parmi eux, à faire des miracles, ils n'ont pas cru en lui. Et pire, les pharisiens cherchaient à le présenter comme un homme pécheur, disant qu'il violait le sabbat, et même qu'il chassait les démons au nom de Belzéboub, c'est-à-dire d'un démon. Et puis, au pied de la croix surtout, ils se disaient entre eux cet horrible blasphème: il a mis sa confiance en Dieu, s'il l'aime, qu'il le délivre maintenant. Aussi, il convenait souverainement que la sainte humanité de notre Seigneur reçoive un éclat incomparable, une grande gloire qui manifeste sa sainteté aux yeux des hommes et extérieurement. Cet éclat, il l'a reçu tout d'abord dans sa résurrection, lorsqu'il est resté avec un corps glorieux dans le secret du tombeau. Aujourd'hui, il la reçoit plus solennellement encore en s'élevant au ciel devant sa mère, devant ses apôtres et ses disciples choisis. Et puis surtout, il la recevra au jugement dernier, lorsqu'il apparaîtra aux yeux de tous les hommes, comme il l'a annoncé lui-même dans l'Évangile selon saint Matthieu. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. Ensuite, le triomphe de notre Seigneur apparaît par la manifestation de sa royauté. Le prophète David déjà chantait dans l'un de ses psaumes ce beau verset : Le Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire à notre Seigneur, le Messie : Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis vos ennemis comme un escabeau sous vos pieds. Sur ce qu'il faut comprendre par le terme « être assis », que vous chanterez bientôt dans le credo, voici ce qu'enseigne le catéchisme du Concile de Trente. Cette expression « être assis » ne représente pas ici la forme et la position du corps. Elle signifie la possession ferme et constante de la puissance royale et de la gloire infinie que Jésus-Christ a reçue de son Père. Ainsi, l'ascension de notre Seigneur est un peu comme une intronisation solennelle de l'humanité, de son humanité, dans la possession et l'exercice de la royauté qui lui revenait déjà auparavant, dès sa naissance. Puisque vous savez que notre Seigneur est roi à un double titre, par nature, de sa naissance, à cause de l'union intime entre son humanité et puis sa divinité, et aussi par droit de conquête, par la victoire de la croix. Et pour pénétrer le sens de cette intronisation, l'histoire de Joseph, le fils du patriarche Jacob, nous sera d'un grand secours, puisque toute l'ascension tend vers le Messie, que ce soit pour le prophétiser ou encore pour préparer le peuple élu à le recevoir ou encore, comme c'est le cas ici, pour le figurer. Alors Joseph était le fils préféré de Jacob, son père, de même que notre Seigneur est le fils bien-aimé du Père Céleste en qui celui-ci a mis toutes ses complaisances, comme il l'a dit donc au moment du baptême de notre Seigneur. Joseph fut vendu par ses frères, par jalousie, et ensuite condamné, un peu plus tard, malgré son innocence, et jeté dans les ténèbres d'un cachot. Il figurait ainsi, notre divin sauveur, vendu pour 30 deniers, le prix d'un esclave, condamné à mort, malgré son innocence, et après sa mort sur la croix, enseveli dans un tombeau obscur. Mais la divine providence n'oubliait pas Joseph au fond de sa prison et lui fit trouver grâce aux yeux du Pharaon qui l'investit d'un pouvoir extraordinaire qui figure l'intronisation de notre Seigneur que nous fêtons aujourd'hui. Voici le passage de la Sainte Écriture en question. Le Pharaon dit à Joseph, « C'est toi qui gouverneras ma maison et tout mon peuple obéira à ta bouche. » Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. Voici que je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Et il lui dit, je suis Pharaon, et sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Le Pharaon représente ici Dieu le Père, Seigneur Tout-Puissant de toute sa création. Il investit Joseph, c'est-à-dire le Christ, comme homme, d'un pouvoir absolu sur toute l'Égypte, c'est-à-dire sur toute la création. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit juste avant son ascension, ce n'est pas dans l'Évangile selon saint Marc qu'on vient de lire, mais dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Tout pouvoir au ciel, c'est-à-dire sur les anges, et sur la terre, sur tous les hommes et toutes les nations. Ce pouvoir, notre Seigneur l'exerce principalement en distribuant ses dons spirituels dans l'Église, comme le disait saint Paul dans l'Épître d'hier, dans la vigile de l'Ascension. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs et il a fait des largesses aux hommes. C'est lui qui a fait les uns apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Ensuite, notre Seigneur use de son pouvoir en ce sens que rien n'arrive sans sa permission. D'ailleurs, quand le Pharaon dit à Joseph que sans lui, nul ne lèvera le pied ni la main dans tout le pays d'Égypte, c'est évidemment une hyperbole, une manière de parler. Mais pour notre Seigneur, c'est parfaitement exact. C'est strictement exact. Rien ne peut arriver parmi les hommes sans que notre Seigneur ne le veuille, ou du moins ne le permette dans le cas du mal. Et notre Seigneur fait tout servir pour ses élus, pour ses fidèles. Même les attaques de ses ennemis, même les tentations du démon, servent à purifier les bons, ou encore à faire éclater leur patience, à les faire acquérir de nouveaux mérites par leur combat. Le pharaon donne ensuite à Joseph son anneau sur lequel se trouvait son sceau royal, de sorte que tous les actes officiels de Joseph auraient la valeur même des actes de pharaon, puisque lorsqu'il les rédigerait, il mettrait au bout le sceau du pharaon, et par conséquent, ce serait attribué au pharaon lui-même. Ainsi, l'humanité de notre Seigneur, à cause de son union très intime avec sa divinité, dans l'union de la seule personne du Verbe, reçoit la communication de tout ce qu'on attribue à la divinité et vice-versa. Et c'est pourquoi on dit, par exemple, que Dieu est mort sur la croix pour sauver les hommes. Bien sûr, c'est en tant qu'homme que notre Seigneur est mort sur la croix, mais on l'attribue à Dieu. On dit Dieu est mort sur la croix. Et cela vaut aussi dans l'autre sens. Et c'est pourquoi saint Paul dit que notre Seigneur reçoit l'adoration des hommes dans cette belle épître aux Philippiens. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est Seigneur. Et enfin, le Pharaon n'ajoute qu'une seule restriction. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. C'est-à-dire que l'humanité de Jésus-Christ reste évidemment comme telle, inférieur à la divinité. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit au cours de sa vie publique, « Le Père est plus grand que moi. » Alors, en conclusion, chers fidèles, pendant cette messe, pendant le temps après l'ascension, jetons nos regards sur notre Seigneur montant au ciel. D'abord, pour l'adorer, pour l'honorer, pour l'aimer de tout notre cœur, et puis ensuite, pour désirer le rejoindre au ciel. D'ailleurs, le catéchisme du Concile de Trente dit que l'une des raisons pour lesquelles notre Seigneur a voulu monter au ciel, eh bien, c'est justement de nous donner ce désir de le suivre, de le rejoindre, pour porter toutes nos espérances vers le ciel. Et d'ailleurs, juste avant sa passion, notre Seigneur disait à ses apôtres pour les consoler, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, c'est-à-dire au ciel. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous y préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Demandons donc à Notre-Dame, Mère du Christ et notre Mère, de toujours rester unie à son divin Fils, ici-bas, par la grâce, afin de lui être associée là-haut, dans la gloire éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.